Money too?
Bref. Amar Lema Kazoboku. Alors, de l'ordi. Ben Maya Sakten. De quoi vous occupez-vous? Omrim, les fanards. Alors, ils disent devant Dieu, Rubono, chez Roland, Arbek Gesharim Gacharnou. Nous avons fait beaucoup de ponts. Je ne sais pas si vous savez que lorsque les Grecs ont battu les Perses, ils ont appelé leur pays le pays des ponts. Vous savez ça ou pas? Non, mais apprenez. Harbe Krachim Kavashim. Nous avons conquis beaucoup de villes. Harbe Milchamot Asin. Nous avons fait beaucoup de guerres. Vechulam et tout ça, nous n'avons fait. Et la Bishbi d'Israël, que pour Israël. Kedeshit Askou va Torah. Pour qu'Israël puisse s'occuper de Torah. Amar Laïma Kazubahu. Dieu leur a répondu. Kolmash Asitem Netzorer Asmechem Asitem. Tout ce que vous avez fait, c'est pour vous que vous l'avez fait. Tikantem Ksharim, Litol Mehem Meches. Vous avez fait des ponts pour lever des impôts. Et vous savez comment les Romains appelaient les prêtres qui prenaient le péage au pont? Les pontifes. Mais c'est vrai, le plus fort. Et la Asot Bahem et Angaria le Milchamou. Pour faire avec cet argent des taxes, des. Comment on dit ça? Des. Qu'est-ce qu'on fait dans les milouim? Des manœuvres pour préparer la guerre. Et, mais, Milchamot, les guerres, Ani Asiti, c'est moi qui l'ai fait, dit Dieu. Chez Nehemar, d'après ainsi qu'il dit, Hashem Ish Milchama, Dieu est homme de guerre. Quand ce verset est donné, au moment du passage de la mer rouge. Hashem Ish Milchama, Hashem Shelo. Klum Yesh Bachel Magidzot, est-ce que. Il peut y avoir chez vous quelqu'un pour argumenter sur celle-là, c'est-à-dire cette Torah-là. Ni Bachem et Agidot. Comme on a vu plus haut, Venzot et la Torah, Shneimar et Zot la Torah. Asher Samosh. Miyad, Yatsu Milefanav et Bachem et Fesh. Et après, alors ils sont sortis, les mots français m'échappent maintenant, Bachem et Fesh. On dit la queue entre les jambes, en fait, comment on dit ça? Déconfit. Voilà, c'est ça. La Gemara pose la question. Réchi, mais Ahar, de Khazit, Marcout Paras, de Marcout Romi, de la Mehania, de la Midé, Maït Ama Aïla. Ok. Alors, la question de la Gemara, c'est de dire ceci. Mais si déjà Rome était disqualifiée, la Perse qui ne fait que ressembler à Rome comme l'a vu plus haut, à quoi ça nous sert de dire qu'elle est à plus forte raison disqualifiée? Vous avez compris l'argument? Non? Non? Donc, alors on avance. Inou citré Betamigdash. Il s'agit des secrets du temple. Quels secrets du temple? Je vais vous expliquer. Le premier temple a été détruit par les Babyloniens. Or, les Perses ont vaincu les Babyloniens. Et ce sont les Perses qui ont construit le deuxième temple. Mais le deuxième temple a été détruit par les Romains. De là, on apprend, il me semble que je vous l'ai cité la dernière fois, que Rome vaincra la Perse. Puisque Rome a été capable de détruire le deuxième temple, que les Perses qui avaient détruit les Babyloniens, constructeurs du premier temple, enfin constructeurs, le feu vert, quoi, avaient été construit, lui, ce deuxième temple, par les Perses. Alors ça veut dire qu'on a besoin d'une dialectique de deux prétendants à la représentation de l'humanité en controverse vis-à-vis d'Israël. Rome par Ésaü et la Perse par Ishmaël. C'est clair? Et comme on a vu avec l'étude du Maharal, il a fallu le temps contemporain pour que se dévoile que le représentant de l'islam, enfin d'Ishmaël, dans la prétention, ou vous Israël ou moi, c'est la Perse. Vous voyez que nous sommes en train de suivre. Et par conséquent, il y a bien ces deux mises en question. Avec une argumentation assez analogue, mais chacune avec son génie propre de civilisation qui va prétendre, eh bien oui, voilà, l'histoire va être jugée, mais nous avons fait l'histoire, et Dieu leur a, et nous avons fait l'histoire, racontée dans le récit historique de la Torah pour qu'Israël puisse s'occuper des mitzvot qu'il y a dans la Torah. Et Dieu leur répond, vous avez fait l'histoire, c'est pour vous, mais ne racontez pas l'histoire. C'est pas pour Israël, étudie la Torah. Et maintenant, ce qu'il y avait de valeur dans cette histoire, c'est à moi, c'est pas à vous. Alors, vous voyez cette disqualification de l'humanité lorsque Israël est passé en jugement. Donc je crois qu'on va être suffisamment à temps avec le reste de temps qu'il nous reste demain pour achever ce texte. La deuxième partie, on va la commencer demain matin. On va voir cet étonnement. Finalement, on peut juger qu'Israël. Hein, on peut juger qu'Israël. Et quand on commencera à juger Israël, l'humanité va s'émouvoir. Ça, on va étudier demain, il va dire, mais c'est injuste. Israël peut être jugé parce qu'il a accepté la Torah, mais parce que c'est pas que tu leur as proposé, tu leur as imposé, et ça, on va dire Shabbat. Alors, impose-nous à nous, tu verras qu'on l'acceptera aussi. Alors, Dieu va leur faire un taboula, et on va voir ça demain.
Mais dans ce texte, on ne parle que de deux royaumes.
Oui. Alors, écoutez, si vous vous souvenez du séminaire de la dernière fois, ça veut dire que, à la fin des temps, il n'y aura que deux léomes, c'est-à-dire que deux nations, j'ai suivi toutes ces notions depuis le début, hein, que deux nations qui arriveront à s'identifier dans l'interpellation d'identité face à Israël. Il y a deux rivalités d'Israël qui se prétendent être universalisme. Hein. C'est Rome d'un côté, l'islam de l'autre, c'est-à-dire la Perse. Hein. Bon, Rome a tous les satellites qu'elle a, et la Perse a tous les satellites qu'elle a. Finalement, avec la Perse, il y a Kadhafi, ça c'est l'ami, ils ont un alibi. Il y a tous, il y a la Syrie, il y a même le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, et puis avec Rome, eh bien, il y a tout l'Occident. Et bien, ça c'est le problème qui est en filigrane. Ça commence avec la famille d'Abraham. Alors je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Enfin, le paradoxe, là, j'en parlerai surtout dans l'histoire. Israël et l'humanité. Eh bien, le grand différent, on l'a avec la famille d'Abraham. L'islam, la chrétienté, la grandeur de Ben Amozek, c'est le premier. Mais l'universel humain, on va le faire avec les Africains, les Asiatiques, les Indiens, les Japonais. Est-ce que c'est clair? Et c'est commencé. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que au moment où l'Afrique et l'Asie recommencent à renouer les relations avec Israël, l'Europe de l'Est, qui est la pire ennemie, se dépêche. On se demande ce qui leur arrive. La première chose qu'ils font, ils déposent le gouvernement et ils appellent un ambassadeur d'Israël. Vous avez remarqué ça? Le dernier, c'est la Tchécoslovaquie, mais c'est tellement spectaculaire. Vous avez remarqué? Et ça s'accélère. Oui, on vit une année privilégiée. Alors, voilà ce que je voulais dire pour répondre à votre question. Mais finalement, l'église et la mosquée seront des confitures, et puis on va commencer enfin la relation entre Israël et l'humanité. Et l'humanité. Voilà, c'est clair un peu tout ça. Donc, après-midi. Alors, peut-être midi, je vais les curer tout à l'heure. On prend donc une petite absaka vers 11h, d'un quart d'heure. Et au fond, ce qu'on a à faire, dont on ne connaît pas très nombreux, c'est un bilan de l'étude de texte qu'on a eu de la semaine dernière. Et j'ai remarqué finalement à travers les conférences qu'on a eues le soir que finalement le texte était assez bien choisi par rapport au thème général du séminaire. Alors ce que je vous propose, c'est que nous reprenions très rapidement le texte qu'on a déjà lu dans Avodah Zarah et qu'on l'avance. Et au fur et à mesure de la lecture, si vous avez des précisions à me demander concernant ce qui s'est passé tant dans les cours que dans les conférences d'ailleurs, on fera ce bilan là. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que ce ne soit pas enregistré, ce sera plus familier. Je vais quand même commencer par une petite introduction sur notre texte en le rattachant au sujet général du séminaire. C'est-à-dire, je vais surtout me référer à ce qui concerne le sujet général. Vous avez remarqué qu'il y a différents sujets d'enseignement qui peuvent être autonomisés pour eux-mêmes, comme d'habitude d'ailleurs, dans une souya, dans un sujet d'étude talmudique. Il y a un sujet général, c'est le sujet de la souya. Souya est un mot ramen, qui signifie à peu près chapitre en hébreu. Et il y a des mimrot, des enseignements particuliers qu'on peut autonomiser. En fait, la ligne générale était cette étude, comment définir en termes talmudiques une catégorie qui enfermerait l'expression française, en langue française, Israël et l'humanité. On s'est aperçu qu'il y avait un premier problème, c'est que la Torah ne veut pas connaître l'humanité troupeau anonyme. L'humanité, c'est un ensemble de nations. Et que par conséquent, premièrement, pour que ce bilan de fin d'histoire au jugement dernier des jugements puisse se faire, et que apparaisse le... Donc, je garderai ce terme de bilan de ce qui s'est passé entre Israël et les nations dans toute l'histoire de l'humanité. Il faudrait qu'il y ait, premièrement, une réidentification de ce que j'ai l'habitude de dénommer les différentes manières d'être homme, que l'on appelle dans le langage habituel de nos études les nations, les goyim. Et vous avez vu comment notre Gemara, celle de Aor HaZara, met en évidence l'extrême difficulté de cette identification. C'est-à-dire, semble-t-il, il faut sortir d'un certain temps de cosmopolitisme pour que, d'un certain niveau de vision cosmopolite, j'ouvre une petite parenthèse, pour que ce bilan puisse être fait. Et je crois effectivement que ça nous permettra d'approfondir un peu mieux ce que nous avons entrevu à la dernière conférence sur Ben Amozek, lorsque Ben Amozek parle de Israël et l'humanité, l'humanité dans cette catégorie, Israël et l'humanité, j'ai bien l'impression qu'il avait ce thème en tête. C'est-à-dire pour lui, il s'agit des nations et de ce qu'ont été leurs aventures religieuses depuis l'apparition du polythéisme, disons du paganisme, dès les origines de l'histoire humaine, en dehors de la chrétienté et de l'islam. C'est-à-dire, s'il se mesure à la chrétienté et à l'islam, plus à la chrétienté qu'à l'islam, c'est parce que, et c'est pour deux raisons essentielles, c'est parce que ce sont les expériences religieuses, j'allais dire les aventures religieuses, de ce qu'il sera convenu d'appeler la civilisation de notre temps. Et la civilisation de notre temps n'est pas la civilisation unique que l'histoire humaine a connue, je pense donc à la civilisation occidentale, mais c'est la civilisation de la contemporanéité, selon la chronologie biblique et traditionnelle, c'est la civilisation du quatrième empire que traverse l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'empire de Rome. Et donc, lorsque je me réfère à la civilisation occidentale comme étant la civilisation, et il y a énormément de textes de nos sources derrière. Il y a d'autres civilisations, et elles sont toutes des civilisations, mais notre relation au fait de la civilisation extérieure à 4 indices, ça a été d'abord la civilisation de Babel, ensuite celle de Perse, ensuite celle de la Grèce, ensuite celle de Rome. Et les autres sont des survivances, si j'ose dire. En leur temps, elles étaient la civilisation de leur contemporanéité, mais de notre temps, en tout cas pour le regard de l'histoire d'Israël, elles sont des survivances. Sauf un cas particulier, vous vous souvenez dans le premier texte, la Perse. Vous vous souvenez de cela, okay. Alors nous aurons à récapituler cela, mais ce qui est frappant, c'est premièrement cette notion, la conscience juive ne peut pas parler de l'humanité sous forme cosmopolite. Enfin, le mot est un peu anticipé, sous forme abstraite. L'expression talmudique que vous avez rencontrée était dans la première page, Harubia, le mélange. Et vous voyez qu'il y a une assonance avec le Hererav de la sortie d'Égypte. Mais là, le mot est en araméen. Okay. Et c'est l'expression qui est employée dès le début de l'enseignement biblique, le mélange de la lumière et de l'obscurité à l'origine, à propos duquel le premier tzav, la première mimra de la création, de l'organisation de la création est apparu, Yehior, c'est pour séparer l'obscurité de la lumière. Vous reverrez d'ailleurs les commentaires sur ces versets, en particulier je vous signale Rashi sur Vihim, avec que je prenne mon livre. Je vais citer ce Rashi d'ailleurs. C'est Regardez l'Elokim, Benahor et Benachosh. Je vais laisser le verset. C'est verset 4 de Bereshit. Et jusque-là, il y a un mélange qui s'appelle, avec le même terme dans les commentaires de ce verset, Aroubia. Et vous savez à quel point ça se réfère à énormément de thèmes d'enseignement traditionnel. Un des grands principes de ce que nous appelons Torah, c'est séparer ce qui risquerait d'être mélangé. Les lois de la séparation, à tout niveau. להבדיל בין קודש לכל, בינו לחושב, בין ישראל העמים, בין מה שהיא שכימה מעשה, היא נקרון רגע. שק אקזיסטן, עשה פרופ דינית דאטר, דן להירחשי דאטר, מסודון לתורה הורר, זה למנעש. Est-ce que c'est clair? Je crois que s'il y a peut-être tellement de comportements obsessionnels sur la cache-route aujourd'hui, c'est peut-être parce que la, j'ose pas dire la communauté, mais la population juive commence à récupérer un peu cette intuition de la nécessité de la mise en ordre, de la séparation, mais le rencontre sous forme aberrante, un peu sous forme obsessionnelle. Bien sûr, il y a tous les niveaux, il y a toutes les dimensions, il y a tous les genres, mais c'est extrêmement frappant de voir que, semble-t-il, le centre, le point focal de la récupération de l'identité juive est passé par là. En tout cas, et c'est pas seulement dans un pays comme la France, c'est dans le monde juif contemporain. Une sorte de revanche sur un certain nombre de thèses des évangiles qui fondait le christianisme dans la permission donnée à mélanger les nourritures. Vous connaissez ce texte. Et encore une fois, ce qui est à déplorer, c'est que ça a une allure tellement obsessionnelle. Bon, c'est un problème propre à tous les rituels. Chaque règle rituelle implique ce danger. Je ne sais pas comment on peut dire en français précis. Je ne voudrais pas dire de bêtises biologiques et psychologiques. De la conduite obsessionnelle, comment ça s'appelle? La manie.
Ça s'appelle l'obsession, l'obsessionnel.
La manière obsessionnelle.
La névrose obsessionnelle.
Oui. Ce que l'échec de l'expérience religieuse, bien évidemment, mais par le biais précisément de la nécessité du rituel, d'une règle rituelle. Et alors, tout de suite, et là nous sommes à la fin de la première page, mais on y reviendra d'ailleurs, tout de suite, après l'indication de cette difficulté d'identifier les différentes manières d'être homme, de telle sorte que la catégorie l'humanité par rapport à Israël retrouve sa dignité précise. Eh bien, on se pose la question, et qu'est-ce que c'est qu'une nation? Et on s'aperçoit finalement, deuxième page, que en deuxième lieu, eh bien, on va ne s'occuper que de deux manières d'être une nation, Rome et la Perse. Comme si, bien entendu, le problème est premièrement posé en relation aux nations du monde, les 70 nations. Mais voilà que deux identités, celle de Rome et celle de la Perse, ont été étudiées très en détail. Et je crois que c'est là que nous étions arrivés dans la lecture du texte. Et il y a derrière cet enseignement que reprendra le Maharal et qu'il a mis en forme dans le chapitre que nous avions étudié au séminaire précédent. En fait, c'est le chapitre 41 du verset qui serait. C'est sûr. Oui. Et parce que Rome, c'est Ésaü, et la Perse, c'est Ishmaël. C'est-à-dire les deux contestations d'identité qui procèdent des nations se prétendant substitut d'Israël. Je n'ai pas dit se prétendant Israël, parce que ce n'est le cas que d'Ésaü, ce n'est pas le cas de Ishmaël, en tout cas dans les deux cas, se prétendant l'universel en place d'Israël. Est-ce que c'est clair comme position du problème? Alors c'est très frappant. C'est la première fois que j'ai vu avec autant de clarté que très probablement la source de ces indications du Maharal qui nous reste mystérieuse, d'où sait-il que Ishmaël c'est la Perse, alors que dans l'histoire ça ne se révèle que de notre temps, que le fer de lance de l'islam c'est l'Iran? Eh bien, il semble bien que c'est tout simplement sa lecture de ces textes du Talmud que nous avons étudié à ce séminaire. Donc je le signale. En particulier, Tosfot semble nous mettre sur la piste lorsque nous arrivons au verset que nous n'avons pas encore abordé à ce séminaire, le verset qui parle des quatre langues de médiation entre Israël et les nations. Je donne tout de suite la référence de ce verset. C'est dans le Deutéronome. Voilà. attention, peut-être avoir appris une courrier. Chapitre 33, et verset 2. Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Je vous rappelle brièvement le thème. Le verset, c'est Hachem Sinaïba, Dieu vient du Sinaï, allusion à l'hébreu, révélation en hébreu. Vezalach Miseir Lamon, il resplendit à partir de la montagne de Seir, ça c'est la montagne des Ahu, donc le latin. Ophir Mehar Paran, il apparaît de la montagne de Paran, ça c'est Ishmael, l'islam. Veata Meri le Kodesh, et avec lui, la compagne des myriades de la sainteté, ça c'est l'araméen, Mimino et Datalmo. Tout ça accompagne la révélation de la Torah. Est-ce que nous avons déjà étudié ce thème-là ?
Oui.
En tout cas, j'ai dû vous signaler. C'est-à-dire que, en particulier, dans la Gemara de Shabbat, on étudie quelles langues peuvent être véhicules de la révélation, du révélé. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un cas particulier à travers les langues humaines concernant les langues de la famille d'Abraham. Bien sûr, l'hébreu, c'est la langue de la famille d'Abraham, mais les différentes lignées de cette famille ont distillé, si j'ose dire, fait apparaître ces identités qui ne sont ni les nations ni Israël, et qui d'ailleurs, dans l'histoire, se sont instaurées comme contestation à Israël, comme rivalité à Israël, et précisément par rapport à notre sujet, ont substitué une autre manière de concevoir la relation universelle que la manière traditionnelle qu'enseigne la Torah à travers Israël. C'est l'universel humain selon la chrétienté ou l'universel humain selon l'islam. Bien, alors les langues de la famille d'Abraham, je vous la récapitule, c'est d'abord l'araméen, qui est la langue familiale de l'identité des Hébreux en exil de Babel, et elle est restée la langue de Laban, l'araméen. Et l'arabe, qui est la langue d'Ismaël, et inutile de mettre en évidence les analogies entre l'arabe et l'hébreu. D'ailleurs, je crois que c'est pas simplement une anecdotique, il suffit de voir que le mot de hébreu en hébreu a trois lettres, Aïn, Bet, Resh, et que c'est même trois lettres, mais brouillées, qui deviennent le mot de Arab, Aïn, Resh, Bet. Et puis, bon, pour l'araméen, c'est évident, pour l'arabe, c'est immédiatement perceptible. Et puis voilà qu'on nous enseigne tranquillement que la langue des Ahu étant le latin est aussi une des langues véhiculaires de ce qu'on va appeler en français la Bible. Et on serait très étonné si ce n'était pas comme ça que c'était arrivé dans l'histoire. Alors, la question qui se pose, c'est le grec. Vous vous rappelez ça ? Alors, on y en a étudié ça, le Talmud établit très clairement que le grec est la langue de traduction. Alors, langue de révélation, c'est l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le latin. Et effectivement, c'est à travers ces langues-là que la révélation a diffusé. Et je peux dire en schématisant que, sauf dans la communauté juive, dans les communautés kabbalistes, l'araméen a gardé sa signification de véhicule de langue révélée. Dans les communautés talmudistes, l'hébreu aussi. Non, parce que pour bien comprendre la Kabbalah et pour la comprendre l'araméen, je ne sais pas si vous savez ça. Mais la question c'est lequel ? Il y a sept langues araméennes différentes. Bon, c'est un autre problème. Et puis, je vois qu'on a oublié, bon, bien que je ne sois pas président, mon vice-président préféré. Si vous savez, il a trouvé bon. Et puis donc. Effectivement, le Talmud est établi qu'on a autorisé à traduire les Kitjvah HaKodesh, les livres de la Révélation, en grec. Donc le grec est la langue de traduction. Pendant très très longtemps, c'est effectivement la langue des érudits. Ça n'est plus de notre temps. C'est devenu une langue d'érudit, mais dans le sens de spécialiste. Et je crois qu'on en avait parlé à cette époque. Le problème de la langue de traduction s'est posé de notre temps. Semble-t-il, c'est l'anglais qui a pris la place. Or, comme par hasard, c'est l'anglais qui a fait diffuser la traduction de la Bible de la manière la plus massive. Comme vous le savez, la Bible est traduite dans toutes les langues du monde. Je crois que c'est le seul livre qui a un tel indice de traduction. Mais c'est bien les anglais qui l'ont diffusé les premiers, plus que les allemands, plus que les latins, que les français, c'est assez frappant. Merci beaucoup. Donc, alors voilà donc ce texte, et je me signale que, oui, maintenant je me souviens, je pense que au dernier séminaire, ou à l'avant-dernier, nous avons étudié le commentaire de Torah Tmima sur ce verset qui cite Sifrei sur ce verset. Bien. Alors nous revenons à notre page de Havre d'Azara, et nous voyons que dans ce bilan de fin des temps, eh bien, le problème de la relation à l'universel humain finalement va se cristalliser dans la prétention d'avoir été à la place d'Israël, de Rome et de la Perse. Bon, c'est clair jusque-là ? Top. Alors je reviens à cette petite parenthèse que je voulais ouvrir au sujet de l'identité cosmopolite qui fait problème. Bien, vous le rattachez à ce que nous avons appris en particulier dans le séminaire sur l'universalisme, je ne sais plus comment il était intitulé, Israël et les nations, c'était l'année dernière. Oui. Eh bien, c'est que, vous ce que je voulais vous dire dans cette parenthèse m'échappe maintenant, je ne devrais jamais différer les... bon, enfin, ça m'en reviendra certainement. C'est, en tout cas, il faut éviter une confusion de sens entre universalisme et cosmopolitisme. Je crois que c'est l'essentiel. Mais j'avais quelque chose de précis à vous citer là. Quoi qu'il en soit, c'est très frappant que ce souci est un souci du Talmud dès l'origine. C'est que Dieu se refuse à mettre en jeu ce qu'on pourrait appeler le jugement de bilan de l'identité de l'histoire humaine, sinon à travers des identités nationales claires. Alors, étant donné que la notion de nation n'est pas du tout claire de notre temps, en tout cas, il faudrait l'élucider, je préfère quand même employer cette expression de manière d'être homme, ça c'est clair. Et ça implique tous les facteurs ethniques, culturels, linguistiques, etc., même lorsque certains d'entre eux manquent, c'est reconnaissable. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il est frappant que de notre temps, il y a une remise en jeu selon des critères d'identité nationale de ce qui a pu risquer à être une sorte de cosmopolitisme en Europe. Et je ne sais pas si c'est clair, il n'y a qu'à lire les journaux pour s'en apercevoir. Cette identité de l'homme européen qui tendait à devenir cosmopolite, et elle n'en est pas sortie d'ailleurs, est remise en question par tous ces événements qui se passent en Europe de l'Est et qui imposent à l'Europe de l'Ouest de se pencher sur ce problème. Alors ce que je voulais dire sans doute, c'est que je crois que là-dessus, ce sont les Juifs qui sont plus en retard. Les Juifs en Europe semblent s'accrocher à cette espèce de rêve d'une identité cosmopolite qu'ils appellent indûment universelle. Est-ce que c'est pas trop dur ce que je viens de dire là? Comment?
C'est à
méditer. Oui, mais enfin, j'aimerais bien que vous réagissiez, parce que pour moi c'est tellement une évidence que lorsque la plupart des penseurs juifs contemporains, en tout cas de langue française, font allusion à la notion de l'universel, il s'agit du cosmopolite. Et de manière extrêmement dangereuse sociologiquement, parce que étant donné que la nation française existe, la réaction risque d'être désagréable. Alors on appellera cette réaction antisémite, mais c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est clair.
C'est étrange, venant des Juifs appartenant à la nation de la Révolution française, qui a été justement percée vers l'universel humain.
Mais je crois que la Révolution française a été un de ces exemples de l'échec absolu de l'élan vers l'universel et de la basculation vers l'impérialisme. Qui est le livre du cosmopolitisme. La force du tyran a toujours été l'empire, c'est-à-dire cosmopolite. Alors, il est bien évident, mais chaque fois que j'en parle en milieu universitaire, je me rends compte qu'il faut des heures d'explication. Mais peut-être, je pourrais le résumer, il est bien évident que c'est l'idéal de la Révolution française qui a mené à l'empire napoléonien. Il n'y a pas simplement une succession d'événements, il y a une causalité très profonde. Alors pour un universitaire réagira tout de suite en disant, mais ce n'étaient pas les mêmes hommes. Comment ce n'étaient pas les mêmes hommes? Les uns étaient la matrice des autres. C'est-à-dire la manière d'être française a cherché l'idéal de l'universel. et elle a capoté, je pourrais dire, dans l'échec de l'impérialisme. Mais c'est cette identité-là, et pas une autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Je vous donne un autre exemple. Je suis persuadé que des chercheurs arriveraient, s'ils exploitaient un peu cette intuition que j'essaie de formuler, à expliquer comment le nazisme est sorti de la pensée libérale allemande. Alors ça peut paraître paradoxal, quand même. Et pas seulement par jeu de dialectique contradictoire. C'est cette manière d'être homme, les idéaux du libéralisme allemand, qui ont été la matrice de gestation de l'identité, disons, nazie. Et je sais bien que je ferais bondir les historiens, les sociologues. C'est pour ça que je dis ça à voix basse.
Au niveau du communisme, alors ?
Eh bien, justement, le communisme, c'est le deuxième exemple moderne de ce que la Révolution française, qui a mené à l'impérialisme napoléonien, a été. La recherche de l'idéal de l'universel socialiste était authentique chez les fondateurs du communisme, mais ça a basculé dans l'Empire soviétique tout de suite. Et c'est les mêmes hommes. On aura beau dire qu'un Trotsky, c'est pas un menshevik, mais du haut de la planète Sirius, quelle nuance. Pas plus évident que la nuance entre les 3, 7 ou 8 qui apparaissent. Les 3, c'est la même chose, en gros. Je sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si je prophétise, j'en connaissais que deux. Il y en a déjà une troisième. Et je crois qu'effectivement, énormément de... Pour moi, le symbole, ça reste Bernard-Henri Lévy, parce que c'est celui que j'ai lu quand j'ai commencé à lire. Les autres, j'avais plus le temps de lire, puisqu'il répétait à peu près la même chose. Mais dans un autre style. Mais cette espèce de fougue avec laquelle on désigne une identité cosmopolite très très pointue, comme l'universel, ça me faisait penser à ce Perelman. Vous avez entendu parler de Perelman, qui était un philosophe juif athée de Belgique.
Oui.
Et c'était un grand philosophe. Et disait de Spinoza. Spinoza était un socinien, c'est-à-dire une pensée cosmopolite très très pointue. Et il est connu comme la pensée de l'universel, à l'article du cosmopolitisme. C'est-à-dire, pour être spinoziste, il faut être très très féru en philosophie générale, sinon on ne comprend rien à Spinoza. Mais si on n'a pas les intuitions de ce qu'était le protestantisme de la province d'Orange en Hollande chez les Socinières, on ne sait pas de quoi il parle. Et j'espère que je vous interloque. Et voilà des exemples. Et alors, la question, les Juifs ont vraiment cru que la Révolution française avait atteint l'universel. Et pas forcément, et c'était pas forcément un indice de leur déjudaïsation. Les Juifs extrêmement juifs étaient persuadés que le Messie était français. Et c'est connu, ça continue un peu dans les idéologies de l'Alliance israélite universelle, vous avez entendu parler. Mais c'est assez clair que dans le grand débat de la société juive française de cette année, les juifs laïcs et les juifs juifs, c'est comme ça qu'ils se disent, c'est le problème qui est en question. Je crois que les deux se trompent. Les deux sont à l'envers l'un de l'autre, mais dans une équation cosmopolite. Peut-être j'ajouterai de nouveau ce que j'ai dit au début du séminaire. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que l'identité hébraïque de la société israélienne, eh bien, est une réponse à cela. Parce qu'en un temps où il y a un cran supplémentaire, la recherche d'une identité un peu plus universelle et dégagée du cosmopolitisme, dans la situation contemporaine, enfin le foyer de cette recherche est actuellement en Europe, eh bien, le rassemblement de l'identité juive dans la municipalité israélienne, dans une spécificité nationale hébraïque, rassemble toutes les manières d'être homme. Et on vient de recevoir deux renforts de deux horizons, les Slaves et les Éthiopiens. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est frappant, la convergence. Je veux dire, les Israéliens d'origine slave, je veux dire, dans une culture slave, ont relevé la tête d'un coup, ils ont retrouvé leur source. Et voilà que ça s'enrichit des Israéliens d'origine noire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à quel point c'est ça, universel. Et ce qui se passe dans la littérature juive, de la controverse juif moins, juif plus, c'est du cosmopolitisme littéraire. Voilà, c'est un peu ça que je voulais indiquer. Est-ce que c'est clair? Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce texte du Talmud sans se rendre compte que c'était le souci des talmudistes dès l'origine. On va retrouver les notions. Mais c'est à peu près là que nous étions arrivés à la lecture. C'est clair? Donc, alors, on recommence la lecture et à chaque phrase, on me dirait si vous voulez qu'on fasse une parenthèse. Et j'espère qu'on arrivera à lire les trois pages ce matin. Quelle?
Vous éloignez, mais je crois que je suis dans le sujet. Est-ce que vous pourriez nous apporter un petit commentaire du premier verset du psaume je le sais qu'en latin, il excite tout Israël, Égypte, Beit, Yaakov, du peuple étranger, le grec traduit « populo barbaro », et en réalité, c'est une notation de langue, n'est-ce pas, dans l'hébreu. Et alors, est-ce que vous pourriez faire le lien entre cette sortie d'Égypte, puisqu'elle recommence maintenant, elle commence à recommencer avec tous les juifs du RSS et de l'Est qui vont venir, et la connotation de âme et de deuil. Voilà ma question.
Attendez, avant la dernière phrase, ça allait tout droit, et puis la dernière phrase, ça a bifurqué. C'est pas avec les histoires des juifs soviétiques, mais avec ce qui se passe en Europe. Et là, on revient sur la connotation cosmopolite. Là c'est une idée extrêmement féconde que vous avez formulée là. Bon, je dis le verset en hébreu, et il s'agit au fond du dernier mot, l'oraz. Loaez, Loaz. Donc, c'est Betzet, Israël, Mimitraïm. Vous arrivez à m'entendre?
Oui.
Betzet, Israël, Mimitraïm. Lorsque était la sortie d'Israël de l'Égypte, Bet Yaakov, Me'am Loaez, de la maison de Jacob, d'un peuple. Alors là, on traduit soit à la langue étrangère, soit barbare.
Étranger ou barbare,
oui. Enfin, oui, c'est vrai, les deux traditions sont toutes. Et alors, vous savez que c'est le terme que la tradition a utilisé pour désigner les glosses de Rashi en vieux français, les loazim de Rashi, vers je fais allusion. D'ailleurs, le séminaire de mai sur Rashi en parlera abondamment de cette utilisation du laaz, loaz, c'est-à-dire du mot d'une langue étrangère, et que Rashi a trouvé le plus approprié pour traduire une nuance du mot hébreu. Dans son commentaire. Et le fait que cette œuvre se soit faite dans le Moyen-Âge français et à travers le vieux français comme véhicule de traduction loazite, si vous voulez, n'est pas un hasard dans l'histoire de la culture universelle. C'est pas parce que nous nous trouvons au centre Rashi que je vous dis ça. Et il faut savoir qu'énormément de dictionnaires, la prochaine fois que je pense à vous apporter celui dans lequel j'ai étudié enfant, et que c'était un petit dictionnaire des loazim de Rashi, édité en Russie par les juifs russes, et ça s'appelle Marpe Nefesh, Marpe Lachon, etc. La guérison du langage, ou la guérison de la langue, et était édité à Odessa, si je me souviens bien, et alors qu'il dans les traductions des mots vieux français de Rashi, en allemand, en russe, dans toutes les langues qui étaient nécessaires, en latin quand c'est nécessaire, mais que ça doit passer par le vieux français. Les Français modernes ne se rendent pas compte de ce que a représenté le vieux français pour l'enseignement de la Torah. Dans le monde entier, c'est-à-dire dans les chivots de n'importe où, il fallait comprendre ce que Rashi avait dit pour comprendre le verset. Et Rashi le disait dans une nuance française. Bon. Et alors, je commence par la traduction, l'oraz barbare. Il y avait certainement une notion que le grec savait dire en son temps, mais que les traducteurs du grec ne comprennent plus. Le barbare, en grec ancien, c'est l'étranger. Est-ce que c'est clair, hein? Les barbaroi, pour les Grecs, c'était les étrangers. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas droit au statut de citoyen, dignité de citoyen, et dans leur pensée, ça voulait dire, à la limite, n'étaient pas évidemment des hommes. Puis il y a les citoyens qui ont les droits de l'homme. Est-ce que c'est clair, ce que je dis? Oui. Et, c'est les barbaroi. Et pour ceux qui ont vécu un peu, connaissent l'Afrique du Nord, vous savez qu'il y a un peuple berbère en Afrique du Nord qui est un peuple d'origine blanche, enfin des Européens, très grande civilisation ancienne, enfin d'après certaines recherches, qui n'est pas du tout arabe, qui a été islamisé, mais qui n'est pas du tout arabe. Et en Algérie, on les appelle les Kabyles, d'ailleurs. Et ils ont une langue à eux, une culture à eux, bien que, étant aujourd'hui algérien et musulman. Certaines recherches que j'avais pu lire les rattachent à un courant humain assez mystérieux où il y aurait eux, les Berbères, les Basques, les Hongrois et les Finlandais. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça voulait dire, dans le langage des civilisés de ce temps, les étrangers. Et le mot de barbare a pris une toute autre connotation en français moderne, déjà en français du Moyen-Âge. Et par conséquent, c'est un peu cela, le Loise. Mais alors, vous avez, dans votre formulation, suggéré une nuance qui me semble être notée. C'est-à-dire l'étranger qu'on ne peut pas identifier dans une équation nationale, mais l'étranger dans le sens de cosmopolite. Loise. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, là, ça se rattache un peu au Erevav de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte et du dedans d'une civilisation cosmopolite, cristallisée par l'Égypte, mais qui était cosmopolite. Bon, maintenant, il y a une explication midrashique sur la notion de barbare. Lo haz, c'est la force grossière. Haz. Vous connaissez ce terme, par exemple, aspanim. Ça veut dire à qui appartient ?
À lui la force grossière. Oui.
À cher l'eau, as. Okay. Alors je dirais qu'il s'agit d'un peuple qui, comment dire, qui ne participait pas à ces langues de révélation telles que, on en a parlé tout à l'heure, et telles que le texte fait. Mais retenez en tout cas que les deux parties du verset montrent deux niveaux d'identité différents. La première partie, Israël est appelé Israël. La deuxième, Israël est appelé Bet Yaakov. Je crois que, encore une fois, inévitablement, quel que soit la lutte nécessaire que... inévitable, nécessaire dans le sens philosophique et qui durera longtemps, entre l'espagnol ou le français ou l'italien comme langue de culture, c'est l'anglais qui l'emportera. Et il semble bien. Est-ce que c'est un plus ou un moins pour l'avenir de la culture humaine? Le génie culturel futur le dira. Et moi, j'ai une réaction un peu chauvine, puisque j'aurais préféré que ce soit l'espagnol ou le français. Parce que je ne connais pas l'italien, sinon j'aurais préféré aussi l'italien. Mais il semble qu'avec l'anglais, ça s'appauvrira. Mais peut-être que pas. Peut-être qu'un homme de culture anglo-saxonne perçoit les nuances de la vérité dans sa langue et que nous n'arrivons pas, nous, à percevoir. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Moi, ce que j'ai été frappé, c'est que les philosophes anglo-saxons sont obligés de se servir de l'humour pour arriver à se faire comprendre. Mais alors, l'humour américain et l'humour anglais sont très différents. Et l'humour américain, en tout cas, pour le peu de familiarité et de connaissance que j'ai, ça me paraît d'un infantilisme énorme. Mais je parle des grands philosophes, je parle pas des films à la sensation. Et alors, l'humour britannique, moi, je supporte pas. C'est une grossièreté spirituelle énorme. L'humour écossais, c'est autre chose. Mais je parle de l'humour anglais. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ces gens-là de manière aussi péjorative. Top. Alors, prenons le texte. Peut-être que, au fond, il y a deux méthodes. C'est que moi, je lise et puis on se pose des questions. Ou bien l'inverse, c'est que vous avez lu, vous avez entendu tout ce qui s'est passé la semaine et à travers ce texte en particulier. Et comme dans la lecture, c'est vous qui posiez des questions. Je préférais la deuxième méthode. C'est pas parce qu'elle est plus paresseuse pour moi, mais parce qu'elle serait plus féconde, je suppose. Alors, je vous rappelle qu'on était parti d'une indication de la Mishnah assez étonnante, l'interdiction de commercer avec les goyim avant leur fête. Vous vous rappelez de cela ? 3 jours avant, oui, là. Alors, on va avancer dans le texte. En prenant vers la fin de la première page, je veux dire. Voilà, première. À la quatrième ligne avant la fin de la page. Les ratis de Lavaux, dans l'avenir, et ça veut dire la fin des temps de l'histoire, mais via que le Jouarou s'effertera, Dieu apportera un Sefer Torah, ou Menicho Bereko, le portera sur son sein. Ça, il faudrait étudier, mais je vous avoue qu'à part des indications de la Kabbalah, je n'ai pas en tête les...